On va parler de déco, de concours de beauté dans ce journal. On ira aussi au commissariat et au palais de justice. Et puis des témoignages et des réactions sur les tensions à Nouméa. C'est en début d'édition. Le journal de la mi-journée, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Et à la une de l'actualité, c'est toujours la situation en Nouvelle-Calédonie qui pose problème.
Et oui, après une troisième nuit de violence et alors que trois émeutiers sont morts ainsi qu'un gendarme, touché par balle de fusil en pleine tête, les Calédoniens se sont réveillés en état d'urgence. Il a été décrété dans la nuit par Emmanuel Macron après une réunion de crise à l'Élysée. Il est officiellement en place depuis 8h ce matin sur le Caillou. L'état d'urgence qui peut durer jusqu'à 12 jours sans vote du Parlement, cela veut dire davantage de renforts des règles de maintien de l'ordre exceptionnel. Les premières décisions sont tombées il y a quelques heures. Cinq figures du CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain indépendantiste, qui n'est pas sous les ordres directs des partis du FLNKS, ont été assignées à résidence. Plus tôt dans la nuit, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, dirigé par Gérald Darmanin, avait expliqué que c'était cette cellule et non les partis traditionnels qui étaient pour lui à l'origine de ces émeutes, de ces violences, de ces pillages incendies de ces derniers jours. Écoutez.
J'ai véhicules blindés, des gendarmes ou des femmes kanaks allaient accoucher parturiantes qui ont traversé, vous le savez, la Nouvelle-Calédonie et ils se sont fait tirer dessus à balles réelles. Voilà ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. La violence qui s'exprime là n'a rien à voir avec la politique. Le CCAT, qui est désormais loin, on le sait, du FLNKS, est un groupe mafieux qui veut manifestement instaurer la violence comme ils l'ont fait dans l'usine du Sud. Oui, au dialogue, comme l'a dit le Premier ministre, autant qu'il le faudra, où il le faudra, avec qui il le faudra. Mais jamais la République ne doit trembler devant les Kalachnikovs.
Voilà, Gérald Darmanin, lui-même critiqué pour sa gestion du dossier calédonien depuis plusieurs mois. De nombreux élus, dont Émataï Le Gaïc et des anciens premiers ministres, ont appelé l'Élysée à lui retirer le dossier au profit de Matignon. En attendant, et en plus de ces assignations à résidence, des perquisitions administratives doivent être menées chez les responsables du CCAT pour mettre en évidence un éventuel lien avec les émeutes. Du côté du premier ministre Gabriel Attal, une autre annonce étonnante dans le cadre de cet état d'urgence, l'interdiction de TikTok sur tout le territoire calédonien. Le réseau social serait largement utilisé par les émeutiers. D'autre part, des militaires ont été déployés pour sécuriser les ports et les aéroports du Caillou.
Et dans cette situation, les Calédoniens s'organisent.
Mais ce n'est pas facile vu les tensions de ces dernières nuits entre armes à feu, voitures béliers et pillages généralisés. Pour éviter que cette violence ne s'exporte à leur quartier, certains forment des milices pour protéger des zones. D'autres, comme ce résident calédonien habitué de la Polynésie, ont monté des barrages. Écoutez.
Les points d'entrée du quartier, on a levé des barrages et on est plusieurs à se relayer sur ces barrages pour éviter que des émeutiers rentrent dans notre quartier. On voit les flammes, hein, pour certains endroits et des cris, des voitures qui passent en klaxonnant, des bruits de grenades assourdissantes côté force de l'ordre. On dort pas beaucoup et c'est vrai que c'est anxiogène, quoi.
Voilà, une situation anxiogène pour ce père de famille qui se dit prêt à évacuer son quartier du centre de Nouméa si nécessaire. Il note tout de même une certaine baisse d'intensité des émeutes en fin de nuit dernière. La conséquence de la pluie, tout simplement, des appels au calme des partis indépendantistes, passés rapides au goût de beaucoup de Nouméens, ou bien de la déclaration d'état d'urgence depuis Paris. Un état d'urgence qui rassure autant qu'il inquiète, puisqu'il rappelle les moments d'escalade de violence des années 80. On ne sait pas comment tout ça va finir, pointe notre témoin, alors que des dizaines d'entreprises ont été incendiées, beaucoup de commerces pillés, des infrastructures et mobilier public détruits ces dernières nuits. Il sait qu'à un moment ou un autre, il faudra reconstruire.
On va avoir une bonne gueule de bois quand on va sortir de ça. On va pouvoir bouger dans Nouméa et Grand Nouméa. Et après, va falloir reconstruire le pays, il faut être clair. Et vivre ensemble, de toute façon. C'est l'objectif final.
Voilà, à noter enfin, toujours sur cette situation en Calédonie, que plusieurs partis indépendantistes et loyalistes ont signé un communiqué commun il y a quelques heures pour condamner les violences et expliquer qu'un accord était possible malgré l'embrasement de l'archipel et le vote du projet de loi constitutionnel contesté à l'Assemblée. Un peu d'espoir dans cette situation, oui, mais voilà, un des partis cités dans le communiqué, l'UNI, auquel est d'ailleurs rattaché le président du gouvernement collégial calédonien Louis Mapou, a démenti être signataire. L'Union nationale pour l'indépendance, membre du FLNKS, explique avoir quitté les discussions avec les loyalistes depuis plusieurs semaines en considérant que l'action de l'État et le discours des non-indépendantistes attisaient les tensions. Dans la situation actuelle, les responsables de l'UNI refusent de se rendre à Paris comme ils y ont été invités par Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Hors de question de signer un accord en catimini, je cite.
Retour au Fénois, mais toujours pour parler de la Calédonie.
Ou plutôt de la Kanaky, c'est comme ça qu'on en parle au Tavigny, qui a rappelé ce matin son soutien au FLNKS. Sans surprise, Oscar Temaru considère que c'est l'État qui est l'unique responsable de la situation actuelle en Nouvelle-Calédonie. Un échec qui remonte aux accords de Matignon, dit-il.
90% du peuple kanak souhaite l'accession de leur pays à l'indépendance. Le peuple kanak ne peut pas accepter le dégel, c'est accepter leur mort. Parce qu'ils seront définitivement minoritaires chez eux. C'est fini. Ils ne peuvent pas accepter ça. Et ils ont raison. La signature des accords de Matignon et ensuite des accords de Genève. C'est ça qui a tout fait foirer. On savait très bien qu'avec ces deux accords, la France jouait avec le temps. Et le temps joue en leur faveur. Et c'est ce qui se passe encore.
Voilà, Oscar Temaru qui martèle avec le poing sur la table que l'accession à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, comme celle de la Polynésie, doit être le préalable et non le résultat de toute discussion avec la France. C'est en rappelant cette position invariable que le Tavigny va fêter vendredi en fin de journée le 11e anniversaire de la réinscription de la Polynésie française sur la liste de l'ONU des pays à décoloniser. Oscar Temaru et Moete Brotherson, mais aussi Tony Géros et Richard Toyava monteront à la tribune pour rendre compte de leur déplacement à Caracas, où se prépare actuellement la prochaine réunion de la commission de décolonisation des Nations Unies.
Et puis cette bonne nouvelle, la justice se met au numérique.
Alors vous allez me dire, il était temps. L'appareil judiciaire utilisait, c'est vrai, depuis longtemps des outils numériques, mais au cours d'une procédure, notamment en matière pénale, le papier reste la norme dans la transmission des documents. On imprime des feuilles qui sont signées à la main, qui sont déplacées physiquement entre les forces de l'ordre et le palais de justice, et même vers les îles. Ce matin, c'est donc une petite révolution qui a eu lieu dans les locaux du commissariat de police de Papeete. En quelques clics, un agent a validé et envoyé la première procédure nativement numérique du Fénois. Une procédure qui ne sera jamais inscrite sur papier. Elle a été constituée par les policiers sur ordinateur, signée électroniquement et elle a rejoint le tribunal sous ce même format. Cela prend quelques minutes, le temps de passer par les serveurs de l'État en France, mais la procédure est ensuite automatiquement classée dans le bon dossier. Plus de travail de manutention, donc plus de travail non plus de recherche et d'envoi pour communiquer les pièces aux différents acteurs de la procédure, que ce soit les victimes, les juges ou les avocats. Une première donc qui suit un effort lancé depuis un peu plus de 2 ans en métropole et qui ne concerne pour l'instant que certaines procédures. Écoutez.
Pour le moment, on est sur les classements sans suite 11, 21 et 71. Ça veut dire absence d'infraction, insuffisamment caractérisée et auteur inconnu. Ce sont les premières filières que l'on ouvre. Et dans quelques mois, on ouvrira cette fois-ci des procédures avec des orientations pénales qui peuvent atterrir devant le tribunal, notamment les convocations par procès verbal. Et ces convocations feront que les personnes seront jugées devant le tribunal avec une procédure qui sera entièrement dématérialisée.
Voilà Anne-Laure Sandretto, directrice du programme Procédure pénale numérique au niveau national et qui fait partie d'une délégation de 7 personnes venues accompagner cette transition au Fénois. À noter que les classements sans suite cité par la directrice, constitue au niveau national 60% des procédures pénales. C'est donc le gros morceau de ce travail qui doit permettre un gain de qualité de service pour les usagers. Il doit permettre aussi de limiter les pertes de dossiers toujours fréquentes en matière judiciaire et doit permettre aussi à terme de raccourcir les procédures pénales.
Parce qu'on gagne du temps de transmission des procédures, parce qu'on gagne du temps d'agent de greffe chez nous. Ce temps gagné à ne pas numériser à la main ou à ne pas entrer des données à la main, bah c'est du temps gagné pour faire autre chose, donc pour développer d'autres services. Donc je pense que effectivement l'ensemble de la chaîne pénale et même l'ensemble du tribunal, puisqu'on fait des gains de temps d'agent, vont y gagner.
Voilà la procureure de la République, Solène Bellaouar, qui était donc ce matin dans les locaux de la police avant de lancer la même procédure de dématérialisation à la gendarmerie, puis enfin au palais de justice cet après-midi.
Un mot sur ce salon.
Oui, ce salon des arts de la maison qui prépare sa 2e édition. Ce sera du 29 mai au 1er juin prochain à l'hôtel Hilton de Faa. Et l'idée est toujours la même que l'année dernière, mettre en avant des créateurs locaux qui peuvent aider à l'aménagement et la décoration intérieure ou extérieure. L'accent est mis sur la valorisation des arts traditionnels avec du linge de maison, des tifeifei, des sculptures et gravures, de la vannerie mais aussi de la vaisselle, des houmettés, du tapas, des gravures, paniers et j'en passe. Le rendez-vous sera aussi l'occasion d'un concours de la plus belle table auquel participeront une trentaine d'artisans. Et puis aussi l'occasion d'ateliers d'initiation aux arts traditionnels, ateliers payants et sur réservation sur artisanat.pf, mais entrée gratuite au salon. Rendez-vous donc du 29 mai au 1er juin à l'hôtel Hilton de Faa.
Le ballet des Miss continue aujourd'hui encore, Charlie.
Et oui, après Kalani Lichao-Hitchner et Moéa Rock hier, on a reçu ce matin 2 nouvelles candidates en studio. Temanava Domingo, 22 ans et diplômée en langues étrangères appliquées. C'est d'ailleurs au retour de ses études à Paris l'an dernier qu'elle a décidé de tenter l'aventure Miss Tahiti. Pour la jeune femme qui répond aux critères critères pour décrocher le titre grâce à son 1m81. L'aventure Miss Tahiti, c'est avant tout l'opportunité de vivre de nouvelles expériences. Passionnée de cuisine, elle aime aussi beaucoup la photographie et la vidéo. Elle dit avoir depuis toute petite un goût prononcé pour l'image qu'elle a développé dans le quartier de Nuuroa Punauia, où elle a grandi avec ses cousins sous l'œil aguerri de sa grand-mère qui lui laisse un message fort en héritage. Écoutez.
J'ai surtout grandi dans une famille de garçons. En fait, je suis la seule fille. J'ai eu une belle enfance. Et bah justement, bah le message que notre grand-mère nous a transmis à tous, hein, c'est pas que pour les femmes, c'est l'élégance du cœur. Elle m'a transmis ça à moi, à mes cousins. Et pour moi, l'élégance du cœur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous retirer et qui touche tout le monde. Et en tant que Miss Tahiti, pour moi, c'est très important d'avoir ça parce qu'on va à la rencontre, justement, de nouvelles personnes. Et là, je parle ici bah, de bienveillance, bien sûr, d'humilité, d'écoute. Ce sont pour moi des valeurs très, très importantes.
Tema Nava, Domingo, donc 22 ans, qui est donc la candidate numéro 7 et qui était accompagnée ce matin de son binôme, la candidate numéro 6, Titali Hitchner. La jeune femme, elle aussi de 22 ans, vit à Maina, à la pointe Vénus. Après avoir obtenu un diplôme dans l'enseignement l'an dernier, elle est aujourd'hui professeure des écoles. À ses heures perdues, Titali danse, elle est adepte du Holi Tahiti, mais surtout grande passionnée de surf. Elle pratique cette discipline depuis 6 ans aujourd'hui de manière régulière. Pour l'enseignante, Miss Tahiti, c'est avant tout un défi personnel, écoutez.
Miss Tahiti n'a jamais été un rêve d'enfant. Dans mon groupe d'amis, lors des anniversaires, etc., j'étais celle à qui on ne disait pas qu'elle ferait Miss Tahiti. Toutes mes copines recevaient le compliment qui dit « Ah, tu fais une bonne Miss Tahiti, toi !» et pas moi. Et donc l'année dernière, à la fin de mes études, j'avais besoin de quelque chose qui allait me faire vivre pleinement et m'assumer, en fait. Et Miss Tahiti s'est présentée et j'ai sauté sur l'occasion. C'est un tremplin, mais c'est surtout un challenge personnel pour prouver à la petite Tita et que tout est possible quand on s'en donne les moyens.
Voilà, Titali Hitchner, candidate numéro 6 au micro de Veitia Repérer. Demain matin, nous recevrons en direct sur Radio 1 et TLFM les candidates 7 et 8, Maire Raoui Tae et Lia Fatuerei. Ce sera à partir de 8h sur Radio 1 et à partir de 8h15 sur TLFM. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver l'info à partir de 16h. Ce sera pour le flash de la rédaction.
Merci Charlie.